Bonsoir. Mon nom est Catherine Doré et il me fait plaisir de vous accueillir à l'émission La Voix de la librairie, diffusée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean à Québec. Alors ce soir, je suis un petit peu enrhumée, alors vous voudrez bien excuser mes reniflements disgracieux et mes quelques maladresses. On va essayer quand même que ça se passe bien. Ça devrait bien se passer parce que ce soir, on a des invités très intéressants et des sujets aussi très intéressants. On va parler principalement de philosophie, un peu de science, et on aura nos entrevues, événements du mois, avec les artistes qui seront en spectacle durant le mois. Nous aurons aussi le grand plaisir d'avoir Gab Paquette qui va nous interpréter une de ses chansons en direct. Donc, ce mois-ci, notre série « Les livres pour comprendre le monde » porte un regard critique sur la rationalité occidentale à partir de différents points de vue. Du point de vue scientifique d'abord, avec le livre « De l'inégalité parmi les sociétés, essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire » de Jared Diamond. Ensuite, d'un point de vue presque mathématique, je dirais, avec « Sens et dénotation » de Gottlieb Frege. D'un point de vue philosophique, avec le célèbre « Tractatus Logico-Philosophicus » de Wittgenstein. Et finalement, d'un point de vue oriental, avec « Les transformations silencieuses » de François Julien. Donc, on va faire une petite pause d'abord, une petite pause musicale. On va écouter la pièce « Safari Strout » des Whitefield Brothers, choisie par Christiane, qui sera notre prochaine invitée. Alors, on se revoit dans quelques instants. C'était Safari Strout des Whitefield Brothers. Donc, nous sommes maintenant de retour avec Christiane. Bonsoir, Christiane.
Bonjour, Catherine. Bonsoir, plutôt.
Donc, on va parler un petit peu de science ce soir. On n'a pas beaucoup parlé de science encore à l'émission. En fait, je pense que c'est la première fois. Et donc, de l'inégalité parmi les sociétés, Essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire, c'est un essai scientifique et anthropologique qui remet en question l'apparente supériorité de la culture européenne.
Oui.
Et pourquoi tu as choisi ce texte-là, Christiane?
J'ai choisi ce livre-là. En fait, ça m'a été recommandé par plusieurs personnes un peu au cours des dernières années, puis mon frère particulièrement qui m'a fortement suggéré de lire ce livre-là. Donc, je l'ai lu. D'ailleurs, en anglais, qui était un peu plus aride, mais j'ai réussi. Et puis... ça répond à des questions, je trouve, existentielles que je crois que beaucoup de gens se sont déjà posées. C'est-à-dire, souvent, on étudie l'histoire à partir du moment où l'Europe est déjà dominante et implantée. Mais comment elle a fait pour devenir dominante et implantée dans le monde? Pourquoi c'est pas en Afrique que il y a une dominance, une colonisation? Pourquoi c'est pas en Asie? Pourquoi c'est pas les peuples autochtones d'Amérique du Nord? Moi, c'est des questions que je me suis posées personnellement.
Oui. Le texte est écrit par Jared Diamond.
Oui.
Et ce monsieur-là, comment il explique cette domination-là de l'Europe?
Il explique ça un peu par... Ce qui est intéressant, c'est qu'il amène une approche très environnementale de la chose. Pour lui, l'inégalité, entre guillemets, la dominance de l'Europe, c'est beaucoup lié à un avantage environnemental et géographique qui a fait que à cet endroit-là, ça, entre guillemets, adonnait bien. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont pu développer une certaine supériorité. Il y avait vraiment un avantage... géographique à tout ça. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le début du livre, un petit peu pour résumer. C'est un... Jared Diamond, c'est un professeur en géographie et en physiologie à l'Université de Californie, donc un éminent professeur, qui a voyagé beaucoup dans le monde et qui est en Nouvelle-Guinée et qui parle avec un nouveau Guinéen. Je ne sais pas comment on prononce ça exactement. Mm-hmm. Puis, cet homme politicien-là lui fait germer l'idée... Il dit « Pourquoi moi, en tant qu'Autochtone, on n'a pas réussi à dominer le monde et toi, oui? » Puis c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire ce livre-là. Il a fait beaucoup de recherches.
Okay.
Et puis, je vais expliquer le titre en anglais qui est un peu plus percutant que le long titre en français qui est « Guns, Germs and Steel ». Donc,
d'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait.
Oui,
hein,
il y a un documentaire.
Assez récemment, en 2007.
Oui, je crois que ça a été fait aux États-Unis, sur PBS, je crois. J'imagine qu'il y a moyen de trouver ça sur Internet.
Je l'ai trouvé sur YouTube.
Donc, c'est pas trop compliqué à trouver, puis c'est très intéressant. Donc, Guns, c'est-à-dire qu'il y a eu une domination, premièrement, je m'éloigne du micro, une domination militaire, vraiment par l'apparition des fusils. Germs, c'est les maladies, et je vais expliquer un peu plus tard sa théorie sur pourquoi c'est les Autochtones qui mouraient des maladies, à part peut-être la malaria qui est un cas inverse et non pas dans l'autre sens. Et puis le steel qui est plutôt l'organisation militaire et tout ça.
Okay.
Donc, en résumé, je résume la théorie très rapidement. En Eurasie, lui, il voit l'Europe et je dirais la Russie en tant qu'un grand amas qu'on appelle l'Eurasie. Lui, il parle beaucoup de ça. Il y avait des ressources végétales et animales qui étaient domesticables. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme point de vue parce que ils avaient contact, ils pouvaient entrer en contact avec les vaches, les cochons, les chevaux, les poules. Côté végétal, il y avait le blé, l'orge, les moutons, les chèvres. Alors, ils pouvaient avoir de la laine, des animaux. Ça explique, c'est vraiment...
C'était que c'était des espèces plus facilement domesticables
qu'ailleurs? Oui, c'était plus facilement domesticable. En Afrique, il y a beaucoup de gros mammifères, mais aucun sont domesticables.
Okay.
Encore aujourd'hui, on ne peut pas domestiquer des zèbres, ni des girafes, ni des éléphants, des félins. On ne mange pas ça. Il n'y a rien. Et puis, en Amérique du Nord également, il y a quelques gros mammifères, mais moins qu'en Eurasie. Les bisons, c'est difficile. Pardon. Donc, il y a vraiment une théorie qui est très intéressante. Et puis aussi que les végétaux qui faisaient pousser le blé sont des protéines complètes. Donc, c'est un aliment complet. Contrairement en Amérique du Nord, le seul qu'il y avait, c'était le maïs. Et le maïs, c'est incomplet. On peut souffrir de malnutrition si on se nourrit seulement de maïs.
Et si on pense à l'Asie, la culture asiatique orientale est quand même assez, est quand même assez forte.
Eh bien, lui-même, il répond aux propres critiques parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont émis des critiques par rapport à ce livre-là.
Oui.
Et par rapport à l'Asie, c'est intéressant parce que contrairement à l'Eurasie, à l'Europe, où était morcelé en beaucoup de petits peuples. Depuis toujours, en Europe, il y a beaucoup, beaucoup de peuples, différentes langues, différentes cultures qui doivent constamment se battre pour rester vivants, pour avoir une supériorité. Donc, ça les forçait un peu à innover technologiquement, à innover, à se rester très actifs, alors que selon Jared Diamond, la Chine était un grand peuple très uni, okay. très autarcique, qui avait moins besoin de se faire valoir, entre guillemets, okay. à leurs frontières.
C'est comme la compétition, finalement, qui oui. crée les découvertes.
Exactement. Oui, un peu une échelle.
L'invention, oui.
Et puis aussi, il y a certaines décisions politiques, c'est intéressant. En 1432, l'empereur chinois a interdit les chantiers de bateaux, alors que la Chine, à ce moment-là, fabriquait des bateaux, avait quand même une bonne force navale, et décisions politiques qui ont arrêté de fabriquer des bateaux. Donc, ça a peut-être fait que la Chine n'a pas colonisé tant que ça à l'extérieur de son territoire.
Puis la théorie de M. Diamond, est-ce que c'est la première fois que c'est avancé, cette théorie-là?
Non, il y a d'autres éminents intellectuels ou chercheurs qui en ont trouvé. Même en 1850, Henry Thomas Buckles avait déjà écrit qu'un climat favorable et des sols fertiles pouvaient contribuer énormément à la richesse d'un peuple. Donc, c'est pas le premier et c'est probablement pas le dernier non plus à amener cette
Est-ce que c'est un point de vue qui a été critiqué? Parce que c'est quand même une théorie
oui.
qui... C'est intéressant, là, mais
oui.
c'est pas béton comme
non,
théorie.
Non, c'est pas béton du tout. Et puis, il y a... Entre guillemets, pour avoir lu le livre, c'est souvent très généralisé. Alors, il généralise beaucoup l'Eurasie, il voit ça très large. C'est comme s'il donne des exemples souvent sans aller dans les détails, mm-hmm. sans être très précis, sans... Il peut y avoir des contre-exemples qui ne sont pas amenés dans le livre.
Okay.
Donc, il y a d'autres auteurs, c'est ça, qui vont souligner certaines incongruités ou des éléments trop vagues. Bien sûr, il y en a qui sont un peu plus aussi... un peu plus eurocentristes, entre guillemets. Puis c'est intéressant parce que, bon, il s'autocritique, entre guillemets, il imagine ce que les gens pourraient lui reprocher.
Oui, oui.
Par exemple, les maladies, pourquoi... c'est les Eurasiens, on va les appeler comme ça, qui rendaient malades les autres. Eh bien, puisque l'Eurasie, depuis longtemps, a de l'agriculture, ça fait depuis longtemps que l'humain est en contact avec les animaux. Il y a
oui.
beaucoup de maladies. En fait, c'est des maladies attrapées par les animaux, comme les grippes.
Oui, la grippe aviaire, tout ça.
Grippe aviaire. Donc, ça faisait qu'eux, étant densément peuplés et beaucoup en contact avec les animaux, développaient un système immunitaire plus fort. Ceux qui survivaient, bien, les Autochtones vivaient en petits groupes et avaient beaucoup moins de contact avec des animaux d'élevage,
oui.
avec des maladies. Donc, forcément, il y avait un système immunitaire plus faible.
OK.
Donc, c'est super intéressant. Franchement, moi, je recommande cette lecture-là à pas mal tout le monde.
Bien, c'est une théorie assez intéressante.
Oui.
Je te remercie beaucoup, Christian.
Ça me fait plaisir,
c'est gentil
Catherine.
D'être venu nous présenter ça. Je vais te demander de laisser ta place. On va recevoir maintenant un musicien. Donc, Christiane nous a parlé de... Tu peux te lever pendant que Gabrielle se prépare. Donc, elle nous a parlé du livre qui s'intitule... Attendez un instant. C'était... Essai de l'inégalité parmi les sociétés, essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire, c'est écrit par Jared Diamond en 1997. Et là, il y a Gab qui est en train de se joindre à nous. Il vient nous faire un petit morceau de musique parce qu'il va nous présenter un spectacle à la librairie dans quelques jours. Et afin de présenter ce spectacle, attends un petit peu, il est en train d'installer son micro, ça ne sera pas très long. Donc, il a décidé de venir nous interpréter une chanson qui s'appelle... Les chinoiseries. Voilà, on s'installe. C'est un petit peu à la bonne franquette, comme on dit, mais je pense qu'on
salut.
Y est.
Salut Catherine.
Salut Gab.
Ouais, c'est ça, j'ai décidé de faire la chanson Les chinoiseries parce que c'est une chanson de Noël, dans le fond.
Ah bon?
Puis je trouvais que ça s'appliquait bien pour Pâques. J'ai juste pas traduit, dans le fond. J'ai tout laissé les éléments qui pourraient être transformés, dans le fond, en Pâques, mais en Noël. Fait que si vous entendez Père Noël penser lapin de Pâques.
OK.
Si vous entendez,
on va traduire au fur et à mesure dans notre tête.
Ouais.
Alors, on t'écoute.
OK. Oui. Ben oui. Un joujou made in China, un cœur en plastique, un masque en plastique, de la neige synthétique, un petit Jésus chinois, un petit Jésus chinois, une crèche made in China, papier d'emballage en plastique, pâté chinois, rouge à lèvres synthétique, Père Noël en plastique, cochonnerie chinoise, un disque en plastique, des paroles en plastique, de la musique synthétique, un chanteur chinois, des feelings made in China, un sourire en plastique, des émotions synthétiques, du cinéma chinois. Oh yeah, 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 yeah. plastique, yeah. Révolution en plastique, monoculture synthétique. Bonheur made in China. 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 Merci,
Caroline.
Mon cher public. Que c'est ça? Ben oui, Catherine, on va être là. On va être là à Pâques. Moi, Stéphane Robitaille, puis Pascal Picot-Larouche.
Ben oui, c'est ça que je me demandais. Donc, tu ne seras pas tout seul, là. Tu ne nous fais pas un one-man show. Tu viens avec le Boys Band.
C'est ça, ben oui. Puis, on vous prépare de quoi? De fondant, de chocolaté, sucré, petit coco de Pâques.
Donc, avec Stéphane Robitaille et avec...
Picot-Larouche.
Picot-Larouche. Ouais. Et toi, Gab Paquette,
oui.
Donc vous préparez un spectacle de Pâques.
C'est ça, exactement. Eh oui, comme à Saint-Valentin, dans le fond, mais on a comme échangé les petits cœurs, puis les petits cœurs à cannelle, puis tout ça, contre des œufs Cadbury. Là.
Tu nous as sorti un dernier vidéo dernièrement, un nouveau vidéo?
Ben oui, les partouzes.
Les partouzes?
C'est genre le fruit de mon expérience personnelle. On a pris des images, puis j'ai composé une chanson là-dessus. Là. Non, c'est pas vrai, mais oui, on a fait un vidéo ici à la librairie.
Oui,
justement.
C'est ça, c'était à la librairie, j'ai vu ça passer.
Avec plein de vedettes, Madonna est là, après ça,
oui,
Jimi
Hendrix. Oui, oui, c'est ça.
Plein de monde. ça a été comme une surprise, c'était une partie de plaisir, puis c'est plus un dance. Fait qu'il va y avoir de la danse pendant le spectacle, il va y avoir des chansons plus guitare-voix.
OK.
Puis je vais même faire un solo de guitare, parce que j'amène mon ampli.
Ah oui?
Eh oui.
On va être gâtés?
Oui. On vous prépare des belles choses.
Tu as fait un spectacle dernièrement au Tam Tam Café.
Oui.
Puis vous avez enregistré?
Bien, on a enregistré sur une cassette, en fait. Là. J'avais amené mon tape à cassette. Puis,
OK.
J'étais surpris de voir à quel point ça sonnait bien.
Oui, donc, ça sonne très bien parce qu'on peut le trouver sur...
sur MySpace.
MySpace, c'est ça?
Oui, je me suis amusé à mettre ça là-dessus pour que les gens... Ben, il y a eu un souvenir, là. Puis les gens qui étaient là... Oui. Peuvent justement aller réécouter.
Donc, c'est ça, si on va sur MySpace, on tape Gab Paquette, ouais. Puis on tombe sur ces chansons. T'en as plusieurs
chansons,
sur MySpace?
J'en ai cinq, là.
Quand même.
Cinq.
Bon.
Des petits extraits. Puis, c'est ça, bon, on va continuer avec le groupe, puis on va essayer de faire d'autres spectacles. C'est pour ma part, en solo, c'est ce qui se passe.
OK. Est-ce que tu peux déjà nous annoncer
quand? Non.
Non.
Bon, on veut peut-être aller en région, aller à Chicoutimi ou.
OK.
Mais il n'y a rien encore de confirmé, mais c'est sûr que le prochain, j'aimerais ça le faire à l'Agité.
Ah oui, ouais. Ben oui.
Ben oui. Ils ont les mercredis de la chanson, fait que ça coïnciderait.
Excellente idée.
Avec ça, j'ai pas encore parlé aux organisateurs, mais ça risque de se faire.
Ben certainement.
Surveillez ça.
Donc d'ici là, ben vendredi prochain.
Samedi.
Samedi.
Ouais.
Samedi, le 7 avril.
C'est ça.
Librairie Saint-Jean-Baptiste à 20h.
Le Boys Band.
Le Boys Band de Pâques.
Et
ça?
Oui, c'est ça.
Ben merci beaucoup, Cam.
Ça me fait plaisir.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter. Le rappel des oiseaux de Jean-Philippe Rameau et on revient avec Mélissa et Jean-Philippe.
Thank you.
C'était Le rappel des oiseaux de Jean-Philippe Rameau. Donc, la pièce a été choisie par Mélissa et Jean-Philippe, qui sont maintenant nos invités. Bonsoir, Mélissa.
Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Philippe.
Bonsoir.
Vous avez choisi de nous parler d'un article paru en 1892 qui s'intitule « Sens et dénotation ». Et c'est un texte qui tente de faire un mariage entre la mathématique et la philosophie. Mais d'abord, on va parler de son auteur, Gottlieb Frege. Donc, c'est qui ce monsieur-là? C'est un mathématicien ou un philosophe?
Ben, c'est les deux, en fait. Frege avait fait une formation de mathématicien, puis il s'intéressait beaucoup à la logique. Par la suite, il a développé toute une philosophie qui tourne autour, justement, de la logique et des mathématiques.
On voit souvent ça en philosophie, un attrait aussi pour les mathématiques, la musique. On dirait que c'est des domaines qui sont un peu connexes, non?
Oui, on pourrait dire qu'ils sont à quelques points de vue interreliés.
Ouais.
Oui. Les deux sont des études de langage aussi. Là. Surtout pour Frege, il étudie principalement le langage en philosophie et le langage aussi en mathématiques. Tous les deux, d'une manière, comme d'un point de vue logique, qui essaie de trouver autant dans le langage ordinaire comment le réduire à un logicisme. Et de trouver en fin de compte aussi dans la mathématique, il a essayé de trouver une base logique en arithmétique, avec pas seulement en arithmétique, mais pour toute la mathématique, développer un langage propre à la mathématique.
L'article dont vous allez nous parler, Sens et dénotation, est considéré généralement comme l'un des textes fondateurs de la philosophie analytique. Pourquoi?
Ben, c'est parce que principalement, on accorde à Frege le tournant linguistique en philosophie. Okay. C'est lui qui a commencé justement à amener le fait que la philosophie se référait beaucoup au langage. Quand on parle de philosophie, ce qu'on fait littéralement, c'est qu'on parle du langage. Fait qu'avec toute sa vision logiciste du langage, il va amener ce tournant-là qui va être repris après par plusieurs auteurs qui vont vraiment construire le tournant linguistique puis toute la philosophie analytique qui va découler par après.
Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Sens et dénotation? C'est quoi la théorie qui est exposée?
Et, ben, en fait, c'est une théorie du langage. Frege ajoute un nouveau concept à ça, qui est le concept de sens.
Okay.
Il débute son texte justement par la différence. Il se pose la question de l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'égalité, c'est une relation, en fait. Puis Frege se pose la question, est-ce que c'est une relation entre des objets ou est-ce que c'est plutôt une relation entre des signes ou les mots? Puis il va justement montrer deux formes de connaissances qui sont la connaissance a priori, A égale A.
OK.
Donc, c'est une connaissance qui ne nécessite pas l'expérience. On sait tout de suite que A égale à A. Puis, une connaissance a posteriori qui nécessite l'expérience, A égale B. Puis, avec ça, il va démontrer, dans le fond, qu'on ne peut pas dire que quand on fait une égalité, on parle d'objet, parce que ces deux connaissances-là, ce serait la même chose. On dirait l'objet A est égal à l'objet A, l'objet A est égal à l'objet B, c'est la même chose. Donc, pour montrer cette différence-là, il n'y a pas eu le choix de se dire... l'égalité qu'on fait, c'est l'égalité entre le sens des objets, dans le fond.
Okay.
Le mot qu'on utilise a le même sens. Donc, A a le même sens que B.
Tout ça est un peu abstrait. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret pour nous expliquer la théorie?
Ben, en fait, l'exemple le plus connu de Frege, c'est ce qu'on appelle en allemand le Morgenstern puis l'Abendstern, qui est deux dénominations de Vénus en allemand, qui est l'étoile du matin et l'étoile du soir, je pense. Et c'est que pour lui, une connaissance a posteriori, c'est de savoir que l'étoile du matin est l'étoile du soir. Okay. Donc, c'est deux objets, c'est deux termes différents pour désigner le même objet. Et cette connaissance-là ne peut se faire qu'a posteriori, qu'elle peut seulement se faire qu'il y ait une connaissance du monde extérieur.
OK.
Qui, en fait, les signes sont différents, la symbolique, les mots sont différents, et on trouve une égalité entre deux symboliques différentes.
OK. Moi, j'avoue que la notion de dénotation, j'ai de la misère à comprendre ça, parce que moi, en fait, ce que je comprends, c'est la notion de référent ou de référence. Mais on vous me dit qu'il y avait une différence entre les deux.
Oui, bien, souvent, le terme choisi, ça va venir arbitrairement de l'auteur. Il y en a qui vont préférer utiliser référence, d'autres vont préférer utiliser dénotation. Mais je crois que ce qu'on entend par là, c'est que référence, ça fait affaire à un terme singulier. Je me réfère à un micro. Tandis que lorsqu'on dénote, on fait affaire à du pluriel. je dénote ces micros-là. Mais c'est toujours le même concept là, qui est de désigner quelque chose de pointé. Puis c'est ça, dans le fond, ce que Frege vient faire, c'est qu'il vient faire la distinction entre le sens puis la référence. Comme l'exemple de l'étoile du matin, l'étoile du soir, ce sont deux termes qui n'ont pas le même sens, mais qui ont pourtant la même référence. Puis à ce moment-là, on est capable de venir faire la distinction entre deux sortes de connaissances possibles.
Et donc, M. Frege, il fallait qu'il soit vraiment très... Ben, il fallait que ce soit un mathématicien, finalement, qui ponde cette théorie-là. Ça ne pouvait pas être...
Ben, pas nécessairement. En fin de compte, le texte sans ses sans ses dénotations en français, le but principal, c'est en premier de déterminer c'est quoi la définition de sens et de dénotation. En français, c'est traduit par dénotation, mais en allemand, c'est Bedeutung qui est plus le sens de signification. Et il fait deux différences. Il y a le sens du nom propre et le sens de la phrase. Il y a la dénotation du nom propre et la dénotation de la phrase. C'est la base principale de son texte, c'est basé sur ces deux concepts-là, et ces deux concepts-là utilisés soit au nom propre, soit à la phrase. Et il va dire, en fait, compte, le sens, peu importe, ben, pour le nom propre, ça va être le mode de présentation. En fait, compte, ça va être ce qui va être présenté. Si je dis étoile, étoile, c'est le son étoile, le signe étoile et le sens du mot étoile.
OK.
Et son référent va être l'étoile alpha, Jupiter et autre chose.
C'est l'objet
en soi. Tandis que pour la phrase...
C'est un peu comme la sémiologie aussi. La sémiologie vient de là.
Oui, ben, l'étude du signe, dans le fond. Oui, ben, c'est sûr que c'est intimement relié, mais ça appartient plus à tout ce qui est vraiment l'étude du langage comme science. Oui, là, la philosophie, c'est vraiment plus explicatif, tandis que ce que Frege fait, je pense que c'est plus normatif. Là. Il cherche vraiment à construire quelque chose d'idéal là, avec son projet.
Ben, merci beaucoup. S'il y en a qui veulent savoir d'où vient la philosophie analytique, on vous conseille le texte, c'est le texte fondateur. Ça s'appelle « Sens et dénotation ». Ça a été écrit en 1892 par Gottlob Frege. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter la pièce « Petite fleur » de Sidney Bechet, où on revient avec une entrevue « Événement du mois » avec Patrick. Thank you. Donc, on est de retour avec Patrick Simard, qui va donner un spectacle à la librairie Saint-Jean-Baptiste le vendredi 6 avril, donc dans quelques jours. Patrick, tu vas faire la première partie, en fait, du Boys Band, mais 24 heures à l'avance, c'est ça?
C'est exact.
Et qu'est-ce qui t'a décidé de faire un spectacle, une première partie 24 heures à l'avance, comme ça?
Oh, mais c'est tout bête. J'avais participé à l'événement qu'ils ont fait le 14 février,
la Saint-Valentin.
Ouais. J'ai eu l'occasion, une première tribune, où j'ai essayé un spectacle solo. Ça s'appelait La Rupture, la Sainte-Rupture, la Saint-Célibat. On a passé un bon moment ensemble. J'ai eu quelques 20 minutes, puis je voulais reconduire l'événement. Mais il est arrivé, je pense, un petit accrochage dans l'horaire, là. Puis
okay.
On m'a proposé de rendre les armes, ou plutôt de présenter une journée à l'avance. Là, on m'a offert une soirée blanche pour moi. Là.
Donc, ça va être ton premier vrai spectacle solo?
Ouais, pour la musique, ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais.
Parce que toi, tu fais de la musique depuis longtemps?
Mettons 25 ans.
Bon, non, pas 25 ans.
Ah, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais
petit. Ah ouais?
Oui,
pour
ouais,
vrai?
Ouais. C'est pas dit que je l'ai bien appris comme j'aurais dû, là, mais...
Tu fais de la musique depuis 25 ans. Mais et c'est quoi les instruments dont tu joues?
Je suis tombé dans un plat de Tupperware super jeune. J'ai commencé par les percussions. J'ai okay. eu des cours à petite école. Le solfège, pour moi, ça passait par des pots de tambour. Fait que après ça, ben ça a évolué là-dedans. Là.
OK.
Parcours obligé, là, le drum, le groupe de punk, les tam-tams, le groupe okay. de hippies, okay. après ça, la planche à laver, le groupe de jazz, puis c'est un peu ça. Ouais.
Puis t'en es venu à la guitare?
Au travers, oui. Non, au travers, la guitare est apparue, je pense, j'avais 16 ans. Donc ça fait peut-être 15 ans là, que moi puis la guitare, on se parle. Là, ouais.
Puis c'est quoi tes influences?
C'est large.
Ouais,
ouais.
C'est difficile à dire. Comme là, t'as choisi Sidney Bechet ce soir pour présenter ton entrevue, c'est...
Parce que ça m'a reposé aujourd'hui, ça.
OK.
Ouais, j'aime bien cette époque-là, j'aime bien l'époque aujourd'hui, j'aime bien l'époque il y a 400 ans. Il y en okay. a pas beaucoup que j'aime pas, en
OK,
fait.
Donc c'est vraiment très large comme influence, là.
Ouais. On peut peut-être en fixer une pour le... Mais non. Le projet qu'on tient depuis 7 ans, les Bleus Pelouses, je peux peut-être les plugger
Oui, c'est ça, tu fais de la musique avec les Bleus Pelouses.
On fait beaucoup de musique de rue, beaucoup okay. de folk américain, okay. beaucoup de blues, bluegrass au début, ça a évolué vers le jazz, on recule dans les années. Puis,
OK.
Ouais. Aujourd'hui, ben, on aimerait, ben, moi aussi, j'aimerais ça être rocker, mais non, je pense que pour le spectacle que je présente, là, c'est très influencé par le folk de Woody Guthrie, par exemple, ou les simples accords 4-5 okay. pour travailler avec ça, pour
okay.
chercher des patterns super simples pour faire passer plus facilement le message parlé, si tu veux. Fait que c'est comme un genre de bar d'essai.
Dans le fond, tu faisais déjà de la musique depuis longtemps, tu composais de la musique, mais là, tu as décidé d'écrire des chansons, d'écrire des paroles.
Ouais, mais on décide pas du jour au lendemain, là. C'est plus qu'à un moment donné, on regarde en arrière, puis on se dit, on en a cette fête, je pourrais présenter ça.
Ouais.
La nuance, ouais.
Et donc, c'est un peu folk comme esprit, comme...
Ouais. Folk, blues, on a perdu quelque chose, on pleure ça, mais on en rit bien aussi. Ça fait que de reprendre cette thématique-là aussi. Mais en français, ça me tentait de...
Oui, c'est ça, c'est différent, hein?
Ouais, chanter pour soi, on est un peu gêné. Les gens vont comprendre. Mais en même temps, ça exprime une plus grande vérité, je pense, là, quelque chose de plus franc.
Bien, on a hâte d'entendre ça.
Moi aussi.
Ça va donc être le...
6.
Vendredi?
Ouais.
6 avril.
20h.
Patrick Simard.
Contribution à volonté.
En première partie du Boys Band.
24 heures d'avance.
24 heures après le lendemain. Et toi, t'es 24 heures en avance le vendredi.
C'est ça la blague.
Ben écoute, je te remercie beaucoup. On a hâte de voir ça. On invite tout le monde à venir. On va faire une petite pause musicale. On va écouter 3 pièces pour un piano. Numéro 1, la première, de Schoenberg. Et on revient avec Roxane. À tout à l'heure. Thank you. Alors, pour la dernière partie de l'émission, j'ai décidé de jumeler deux invités parce qu'il me semblait que leur sujet était complémentaire. Roxane va nous parler du Tractatus Logico-Philosophicus, qui est une pièce presque mythique de la rationalité occidentale. Et Pierre-Alexandre va nous parler du livre Transformation silencieuse, qui jette un regard critique sur la rationalité occidentale à partir de la pensée orientale. Alors, bonjour à tous les deux. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par Roxane. Roxane, tu vas nous parler évidemment de la pensée de Wittgenstein, mais tu as choisi pour introduire ton exposé la pièce qu'on vient d'entendre, qui est trois pièces pour piano de Schoenberg, et c'est une interprétation de Glenn Gould. Et pourquoi tu as choisi cette pièce-là?
J'ai décidé de prendre la musique de Schoenberg, entre autres parce que c'est le genre de musique qui nous vient à l'esprit en premier, peut-être en pensant à une philosophie comme celle de Wittgenstein, qui est une philosophie très analytique, très axée sur la logique. Puis c'est une musique qui est elle-même très très analytique, qui est aussi la même époque. Wittgenstein est un philosophe viennois qui a sans doute joué d'ailleurs dans les salons de la famille Wittgenstein, qui est une grande famille de la bourgeoisie industrielle viennoise, très très fortunée, qui recevait énormément les musiciens de l'époque dans leur château. Donc, on peut penser a priori que c'est un genre de musique qui plairait énormément à Wittgenstein lui-même, compte tenu de son esprit très analytique. Et ce qui est intéressant, c'est de noter plutôt le contraste, c'est-à-dire que si Wittgenstein avait été présent parmi nous, il n'aurait pas tout à fait apprécié ce choix musical, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque ses goûts musicaux à lui étaient plutôt portés vers le romantisme classique, Schubert, entre autres Beethoven, etc. Donc, si on avait voulu lui plaire, on aurait pris ce type de musique, mais je trouvais ça intéressant d'introduire par plutôt une musique contrastée, puisque Wittgenstein lui-même est un personnage, au final, tout en contraste.
Est-ce qu'on commence à parler du Tractatus lui-même ou on parle de Wittgenstein en premier, comme tu veux, là?
On peut peut-être introduire d'abord un peu le personnage. J'en ai déjà dit un mot, là. Il faut savoir, donc, cette origine quand même très particulière, là, de grande famille fortunée, qui est intéressante à noter. Puis, en gros, peut-être le noter pour justement insister sur ce contraste-là, c'est-à-dire sur le fait que Wittgenstein lui-même, au moment où son père est décédé, là, peu après la guerre, bon, il a hérité de la fortune familiale qui chiffrait carrément en milliards de dollars, millions, enfin, je ne dirais pas jusqu'à milliards, mais quand même, a renoncé complètement à cette fortune fortune-là. Et donc, a choisi un mode de vie. Oui, c'est très impressionnant. C'est un personnage qui est comme ça.
Qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent-là? Est-ce qu'on le sait?
En fait, il y en a une première partie qu'il a léguée à certains artistes viennois, dont je n'ai pas les noms exacts, là, mais certains artistes contemporains de l'époque, Schlick, entre autres, et d'autres, créer une espèce de fonds anonyme, en quelque sorte, pour aider les artistes. Et la deuxième partie, donc l'héritage qu'il a reçu à la mort de son père, a été distribué entre ses frères et sœurs. Essentiellement. Donc, après coup, dans la suite de sa vie, il a pu être en difficulté financière par moment, mais il a toujours refusé. Il tenait pour important, finalement, cette indépendance-là. C'est un puriste, puis ça fait partie de son côté, comme ça, très, très mystique, très romantique. À une certaine période de sa vie, il a occupé vraiment différents métiers. Là. Il a d'abord étudié à Cambridge.
En quoi?
Ses études?
Oui, oui.
Il a d'abord étudié l'aéronautique, donc il a fait une école d'ingénierie, en fait.
Ah oui?
Au début du 20e siècle, donc en 1906-08 à peu près. Ensuite, il est allé à Cambridge pour étudier, pour prendre les cours de Russell en philosophie des mathématiques.
Bertrand Russell.
Oui, c'est ça.
Qui est assez connu en général, si les gens ne le connaissent pas, vous irez faire un petit coup d'œil sur Wikipédia, ça vaut la peine, c'est un penseur très intéressant.
Oui, c'est un personnage important, lui également. Donc, il se sentait attiré par la philosophie des mathématiques, même s'il étudiait, il a fait une formation plutôt technique à la base. Puis, il est allé voir Russell, donc, pour voir s'il pouvait, non pas devenir aéronaute. Il lui a dit que, paraît-il, quelque chose du genre, si vous croyez que je suis moins que rien, je deviendrai aéronaute, puis autrement, je deviendrai philosophe. Donc, Russell a décidé qu'il allait devenir philosophe. Par la suite, donc, à partir de à peu près 1911-12, il commence là à suivre les cours de philosophie des mathématiques à Cambridge. Il devient très, très proche de Russell et des autres philosophes du lieu. Et puis, c'est là où commence à germer son fameux traité logico-philosophique, donc le fameux Tractatus, qui sera terminé parce qu'il va se porter volontaire durant la guerre également. Donc, encore, on voit cette filiation-là, des idéaux très purs, très puristes. Pendant la guerre, compte tenu de son statut familial, quand on est quand on fait partie d'une des familles les plus riches d'Autriche, on peut facilement esquiver ou être embauché dans l'armée comme officier, s'éviter les tâches ingrates. Et lui se porte volontaire comme simple soldat durant la Première Guerre mondiale.
Il a été soldat,
il a récolté plusieurs médailles, entre autres. Il s'est quand même démarqué comme soldat. Il a été fait prisonnier également à la fin de la guerre en Italie. Et c'est là qu'il a terminé la rédaction du fameux traité. Qui a envoyé d'ailleurs du camp de prisonniers où il se trouvait, qui a réussi à faire parvenir à Russell en Angleterre dans l'espoir de le faire publier parce qu'il était absolument persuadé d'avoir mis au point une œuvre géniale qui méritait d'être lue par tous. Malheureusement pour lui, on le voit dans sa correspondance, il est très dépité là, de voir qu'il n'y a personne qui veut éditer son œuvre géniale. Très, très difficile.
Mais c'était quoi l'exercice qu'il a tenté de faire? Dans le fond, c'est quoi le message du Tractatus,
c'est un nom latin qui a été suggéré par un autre ami de Cambridge en référence au traité de Spinoza, le traité théologico-philosophique.
OK.
Donc, c'est l'origine du titre.
OK.
Il s'agit vraiment d'un traité de logique. Donc, Wittgenstein, comme je le disais, est d'abord ingénieur, s'intéresse à la philosophie des mathématiques, et ce qui l'intéresse, c'est les fondements de la logique. L'introduction qu'a rédigé Russell à l'époque, entre autres pour aider à la publication de l'œuvre, parce que, bon, Wittgenstein était un philosophe inconnu. Il voulait faire publier son œuvre qui, d'une part, est constituée d'une série d'aphorismes, donc c'est une forme déjà qui est difficile d'accès. Par un auteur inconnu, c'est pas évident à faire publier, donc avec l'introduction de Russell, ça facilitait les choses auprès des éditeurs. C'est une introduction qui a été très, très critiquée, entre autres, par Russell lui-même.
Est-ce que c'est pas une introduction qui avait... Il y avait eu des critiques, certains le lecteur disait que l'introduction traduisait... quand on lisait l'introduction, ça traduisait que, bon, Bertrand Russell lui-même n'avait pas nécessairement très bien compris là, toute la profondeur de la pensée de...
C'est ce que Wittgenstein lui-même jugeait. Il avait écrit une lettre du genre... il donnait des notes, certaines remarques sur le style pour justifier le fait qu'il préférait ne pas voir cette introduction-là publiée, mais en fait, c'était un euphémisme parce qu'il considérait que ça reflétait pas très bien sa pensée, cette introduction-là. Puis, en général, effectivement, elle peut un peu quelque peu désorienter le lecteur, mais il y a tout de même l'introduction, c'est-à-dire le début de cette intro que je trouve intéressante, dans la mesure où elle situe, je cite Russell justement, Russell qui dit « Pour comprendre l'œuvre en question, il faut concevoir quel est le problème qui l'occupe, donc quelle est la question principale de Wittgenstein. » Et il l'explique comme ceci, il dit « Ce problème en est un de logique. Quelle forme un énoncé doit-il avoir pour être capable d'être le symbole d'une certaine réalité ?» Donc, ce qui intéresse, en fait, Wittgenstein, là-dedans, c'est les fondements même de la possibilité de la logique. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse, au fond, utiliser des propositions, que ces propositions-là puissent faire référence à certains éléments de la réalité et que ça puisse être compris? Donc, elles sont c'est une question a priori, mm-hmm. en quelque sorte. C'est une question strictement philosophique et logique. Donc, sur quoi la logique elle-même doit-elle se baser? Qu'est-ce qui la rend possible? De quoi est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir fonctionner en tant que logique puis nous être utile dans le monde dans la vie en général, quoi. Donc, c'est vraiment l'essence même, la possibilité de la logique elle-même qui l'intéresse.
Je pose une question comme ça, peut-être que vous ne pouvez pas y répondre non plus, mais en quoi c'est différent de Sens et des notations de Frege qui essayait aussi de faire un système logique, dans le fond, d'expliquer le monde par un système en soi, là?
Oui. Ben, il y a des influences très fortes, d'ailleurs, dans l'introduction à la préface de Wittgenstein au Tractatus. Il dit toute sa dette envers l'œuvre de Frege,
okay.
Puisque cette partie de la philosophie de Wittgenstein, dont il va s'éloigner, on va peut-être y revenir tout à l'heure, dont il va s'éloigner plus tard, parce qu'il y a un second Wittgenstein éventuellement. Mais le Tractatus lui-même s'inscrit dans la même veine d'une théorie figurative du langage, donc de la volonté, de la tentative de mettre au point un symbolisme logique qui parvienne à expliquer la réalité puis à expliquer notre usage du langage, en quelque sorte. Donc, la théorie que Wittgenstein met au point est assez proche, sauf que ça ne l'intéresse pas, cette différence-là entre le Sinn et le Bedeutung, la différence entre le sens et la signification. Pour lui, ce n'est pas une distinction qui est intéressante. Ce qu'il veut, c'est plutôt essayer de comprendre quelle est la forme logique que doit avoir une proposition pour être en mesure d'être l'image de ce qu'on veut représenter.
Et il avait quel âge quand il a écrit ça?
Il était très jeune. Attendez, il est né en 1889, puis il termine le traité à la fin de la guerre en 1914, donc
18.
À peine 30 ans, quoi.
C'est quand même quelque chose, comme morceau.
C'est ce qu'il a présenté comme thèse de doctorat ensuite à Cambridge pour devenir professeur.
Okay.
Puis, enfin, Russell disait quelque chose du genre, je suis pas sûre de tout comprendre, mais c'est certainement un œuvre de génie.
Puisque je n'y comprends rien, c'est génial.
Non, pas exactement, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins incompréhensible qu'on peut le penser. Ce que veut faire Wittgenstein, donc, c'est expliquer... les fondements même de la logique, en quelque sorte. Puis, il est à la recherche de ce qu'il appelle donc cette forme logique. D'abord, il insiste sur le fait que dans toute donc l'essence de la proposition, c'est de se caractériser par une correspondance entre la combinaison des éléments et la combinaison des éléments du monde qu'elle représente.
Okay.
Donc, il faut que ce soit comparable, quoi, ce qu'on veut représenter dans le monde et la proposition elle-même. Mais ce qui l'intéresse surtout dans ce rapport de projection-là entre l'énoncé et ce qu'il représente, c'est ce qu'il peut y avoir de commun entre l'image et le monde. Donc, c'est ce qui s'appelle la forme logique, donc l'espèce de dénominateur commun minimum là, qui permet entre l'énoncé, la proposition et l'élément du monde, qui permet qu'il y ait un lien entre les deux. Ça peut être très peu de choses. Il donne certains exemples, parfois avec une image, par exemple, ou en géométrie. Si on veut pouvoir placer un point sur un plan géométrique, il doit y avoir certains éléments de base entre le dessin géométrique et ou en peinture, entre sa représentation, donc les traits de base.
Puis si je comprends bien, le texte n'a pas soulevé beaucoup d'enthousiasme au moment où il a été écrit. C'est qu'il ne voulait pas être édité. Il y a des gens qui... Les gens ne voulaient pas l'éditer.
Au tout départ, ça a été difficile pour l'édition. Mais comme c'est souvent le cas dans des œuvres comme celle-là, il y a d'une part, disons, une réception privée dans les cercles de Cambridge. Tu sais, ça a circulé très rapidement. Il y avait déjà un proto-Tractatus qui était en circulation. Quand il est arrivé dans les années 30... Longtemps après la guerre, quand elle est retournée à Cambridge, quelqu'un, je me souviens plus qui, mais notait dans sa correspondance, Dieu est arrivé au train de 5h15, je vais le chercher à la gare, tu sais, quand il est revu, c'était vraiment déjà quelqu'un de très reconnu, mais dans des milieux intellectuels. Après, pour l'édition, c'est différent, bien sûr, parce que là, ça veut dire, l'ouverture à un plus large public, là, c'est un peu différent, mais dans les milieux proches, les milieux qui s'intéressaient déjà aux questions qui étaient les siennes, les milieux d'initiés, en quelque sorte, ça a été reconnu rapidement comme une œuvre importante.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après, lui? Il avait comme expliqué tout l'univers ou tout le sens du monde. Qu'est-ce qui lui restait à faire?
Du moins, c'est ce qu'il croyait, hein, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. C'est assez beau, en introduction du Tractatus, il dit quelque chose comme « Cette œuvre a deux mérites, d'abord d'exprimer des pensées, puis bon, si elles sont bien exprimées, tant mieux, c'est encore mieux. » Puis ensuite, il dit quelque chose comme « Le second mérite, là, c'est d'avoir résolu certaines questions essentiel de la philosophie à son sens. » Enfin, pour lui, il y avait vraiment un point final, là, entre autres parce que ce qu'il arrive à faire dans cette œuvre-là, c'est de circonscrire ce qui peut être dit dans les propositions et ce qui ne peut pas l'être. Puis, entre autres, tout le domaine de la métaphysique ou de la mystique dont il est question à la fin du traité, qu'il arrive à placer à l'extérieur de ce qui est possible d'être dit par des propositions. Donc, l'établissement de sa logique fait en sorte de circonscrire la tâche de la philosophie, puis d'établir que les propositions qui sont pas réductibles à des propositions logiques, mathématiques ou scientifiques, qui traitent des valeurs, de la beauté ou qui traitent des questions d'esthétique ou d'éthique, ne peuvent pas être traités par le langage. Ils sont du domaine du mystique, de l'indicible. Donc, arrêtons de discuter ad vitam aeternam sans fin de ces questions-là. Donc, c'est dans cette mesure-là qu'il considérait avoir donné un certain point final, mais c'est un point final très négatif, c'est-à-dire qui est en quelque sorte en creux, pour ainsi dire. Il établit très peu de choses, puis c'est ce qu'il dit dans la fin de sa préface. Donc, je pense avoir établi des choses définitives. Et la grande, pour lui, le point fort de l'ouvrage, c'était également d'être conscient du fait qu'une fois que ces choses-là sont établies, très peu a été fait malgré tout, parce que les questions qu'on pourrait qualifier d'existentielles, tout ce qu'on a réussi à établir, c'est qu'elles sont en quelque sorte en dehors de la portée du langage.
Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Est-ce qu'il a continué à faire de la philosophie après ce constat-là, ou s'il a décidé de faire autre chose? Comment il a...
Oui, pendant une bonne dizaine d'années, après la rédaction du Tractatus, qui correspond aussi à la fin de la Première Guerre mondiale, qui est certainement pour lui
comme une cassure, là.
Oui, un événement historique, en tout cas. Puis aussi un événement personnel majeur, aussi. Rapport à la mort, etc. Donc, il se retire complètement du milieu philosophique. Il est, entre autres, par moments, il devient, c'est de manière plutôt brève, mais il va être, entre autres, jardinier dans un monastère.
Ah oui?
Et ensuite, il va aller étudier, puis paraît-il qu'il vient dans des conditions misérables, dans le cabanon, dans le fond du jardin, un truc inconcevable quand on pense du milieu d'où il vient, quoi. Donc, il fait ça, mais pendant une brève période. Puis, il pense à devenir moine, paraît-il, donc à carrément entrer dans les ordres. Et finalement, il s'inscrit à une école d'instituteurs en Autriche. Donc, il reste... Parce que, aussi, je l'avais peut-être pas mentionné, mais quand il... Enfin, il est dans l'armée autrichienne, bien sûr, quand il se porte volontaire pendant la Première Guerre mondiale, c'est du côté, pour l'Empire austro-hongrois de l'époque. Et puis, donc, il demeure en Autriche. Et puis, il devient instituteur dans les petites écoles de villages de rang, dans les milieux très, très, très pauvres et très peu éduqués de l'Autriche. Il fait ça pendant presque une dizaine d'années. Là, il y a des hauts et des bas. C'est pas forcément facile. Il est pas vraiment accepté des villageois. Paraît-il qu'il...
Est-ce que c'est un étranger?
Il doit être... Je pense qu'on sent qu'il est différent. Là. C'est des milieux, vous imaginez, dans un petit village au début du siècle, déjà, dans les mentalités de village en général.
C'est un milieu rural, alors que lui, une éducation plus que bourgeoise, c'est l'aristocratie.
Exactement. Puis paraît-il qu'il a tendance à user de châtiments corporels envers les élèves. Ce qui peut paraître fin, ça. C'est un peu particulier, mais c'est ce que raconte sa biographie, du moins. Puis c'est ce qui aurait mis fin là, à...
La biographie, tu m'en parles, tu peux nous dire le titre et l'auteur, les informations que tu nous donnes, là, ça vient d'une biographie de...
Entre autres, une très bonne biographie qui a été traduite de l'anglais il n'y a pas si longtemps.
De Ray Monk.
De Monk, oui, qui s'appelle Le Devoir de génie.
C'est ça, Wittgenstein, Le Devoir de génie.
Exactement, qui est Monk, qui est spécialisé en philosophie quand même, qui aborde aussi de manière intéressante les questions plus strictement philosophiques, okay. Et qui brosse là, une biographie vraiment très complète, complète et complexe, je dirais, à la mesure du personnage.
Mm-hmm. Et sinon, au final, donc, ce serait quoi la différence entre... Vous dites qu'il y a Wittgenstein 1 et 2, et c'est quoi vraiment ce qui concrétise le passage vers un autre système de pensée ou une autre approche par rapport à la logique, finalement? Ou...
Oui. Donc, pour finir la petite histoire, il va finir par quitter les villageois, son métier d'instituteur à la fin des années 20. Il fait ça pendant une dizaine d'années. Et là, il retourne à Cambridge et il se réintéresse aux questions qui l'avaient déjà intéressé de philosophie, de mathématiques. Et il revoit avec un œil beaucoup plus critique tout son travail passé.
Mm-hmm. Est-ce qu'on sait pourquoi il a décidé de revenir comme ça à la philosophie tout à coup?
Il était très, très malheureux dans ses lettres. Là, c'est,
Et pendant combien de temps
pendant son métier d'instituteur?
Il pendant 5 ans? Ou
non, une dizaine d'années.
Une dizaine d'années?
Après la guerre... puis jusqu'en, vous voyez, attendez, plutôt en 1926, qui démissionne de son poste d'instituteur.
Ah, d'accord.
Donc d'à peu près 14-15, enfin une bonne dizaine d'années. Mm-hmm. Puis il décide, ça se passe mal, ça se passe de plus en plus mal aussi avec les villageois, il y a énormément de tensions. Puis il demeure quand même en contact avec les intellectuels autrichiens, entre autres avec le cercle de Vienne qui commence à se constituer à cette époque-là. Donc il continue à travailler sur son tractatus, sur la traduction. Mm-hmm. Donc sa vie intellectuelle se poursuit. Puis sans doute que, je sais pas, il finit par digérer sa propre œuvre en quelque sorte. Là. Puis la période d'éloignement, de repos qui semblait nécessaire se termine. Mm-hmm. Il se sent prêt peut-être à retourner au travail. Puis en 1930 à peu près, on le retrouve à Cambridge, là où il enseigne, où il devient professeur, en présentant, comme je le disais, le tractatus pour sa thèse de doctorat. Puis c'est là où il recommence à donc réfléchir aux problèmes qui l'avaient intéressé. Et c'est là où il remet, pour répondre à votre question, donc ce qu'il remet en question fondamentalement, c'est précisément ce dont on parlait au début, c'est-à-dire cette théorie figurative du langage, cette idée qui avait puisé déjà chez Frege et chez d'autres, que pour trouver le sens des mots, il faut aller chercher dans l'ailleurs vers ce qu'ils représentent, comme s'il y avait toujours un arrière-monde, pour reprendre les termes de Nietzsche, là, au langage lui-même, qui devrait se référer à quelque chose qui existe ailleurs pour aller trouver sa signification. Donc, c'est essentiellement ça, cette théorie figurative-là, qui va remettre en question.
C'est ça qui remet en question.
Puis aussi l'ontologie qui est derrière, disons, cette prérequis, cette espèce de présupposé ontologique qui est derrière. Et l'aspect un peu dogmatique de cette pensée-là, il va vraiment travailler à déconstruire tout ça pour mettre au point, plutôt qu'une philosophie du langage, donc ontologisante, hein, une philosophie du langage qui va trouver son cadre et sa structure dans la grammaire, essentiellement.
Ah oui?
Puis c'est là où on peut comprendre tout ce fameux linguistic turn qu'a connu la pensée philosophique au 20e siècle. Wittgenstein y a énormément contribué, donc cette importance qu'on accorde nous-mêmes aussi beaucoup maintenant à cette manière d'aborder la langue.
Est-ce qu'il y a un texte précis qui exprime cette deuxième... On connaît le tractatus, ouais. Mais est-ce qu'on connaît un autre texte de Wittgenstein qui expose cette deuxième théorie-là?
C'est un peu, il y a très peu d'œuvres de Wittgenstein qui ont été publiées de son vivant. Bon, il y a le tractatus, d'une part, puis je crois les recherches, les remarques philosophiques, si je ne me trompe pas. Sinon, on a entre autres des notes de cours, le cahier brun, le cahier bleu, qui sont des notes de cours qui ont été donc retranscrites suite à son enseignement à Cambridge. Puis on a, mais c'est une pensée qui est essentiellement aphoristique. Puis il avait plutôt tendance, vous voyez, il écrivait, il notait une quantité importante de remarques ou d'aphorismes sur des thèmes qui l'intéressaient, comme De la certitude également, qui est son dernier ouvrage, là, qui traite de la question de la croyance. Donc là, puis c'est intéressant, on voit bien le décalage, là. Alors que ce qui l'intéresse, par exemple, dans le traité, dans le tractatus, c'est de comprendre comment est-ce qu'une proposition est vraie ou fausse, donc établir les conditions de vérité des propositions. Ben, ce qui l'intéresse à la fin de sa vie, c'est pas de savoir si et pourquoi une proposition est vraie et ou fausse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'une proposition est vraie.
Mm-hmm. Ah, comme c'est intéressant.
Donc, il y a tout un décalage, un éloignement de la question logique. Il va beaucoup s'intéresser à ce qui a rejeté du revers de la main, en quelque sorte, tout ce qu'il a considéré comme étant hors du cercle de ce qui était possible d'être dit par la philosophie, c'est-à-dire l'esthétique, la croyance, l'éthique, etc. Donc, il va s'y intéresser. Mais autrement, c'est-à-dire avec toujours ce regard grammatical sur les choses. La grammaire va, donc le cadre grammatical va remplacer le cadre ontologique dans la deuxième partie de sa vie. Puis ça va donner place à une philosophie justement beaucoup moins dogmatique et beaucoup plus pragmatique. Par exemple, attendez un peu.
Ça doit te parler, ça, toi, Pierre-Alexandre, le côté grammatical?
Oui, absolument.
On va en parler tout à l'heure.
D'ailleurs, je trouve ça très, très intéressant, justement, au niveau du dernier énoncé de Wittgenstein dans son tractatus, il dit que ce que l'on ne peut nommer, il ne faut le dire.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.
Oui, exactement. Mais je trouve ça intéressant parce que, justement, ça pose un peu, ça entre en contradiction, finalement, avec tout ce qui est de domaine, par exemple, de la phénoménologie ou de la poésie, ou qui est un domaine qui au contraire tente toujours de dire ce qui peut pas être dit finalement, qui est vraiment aux antipodes de cette logique un peu pure et dure, là, formelle, si on veut. Et je trouve ça intéressant puisque justement dans l'entrevue que je vais faire tout à l'heure, il y a justement cette notion là aussi de garder le silence sur les points.
Mais sans doute que Wittgenstein aurait considéré que la poésie, par exemple, est un médium beaucoup plus approprié pour discuter de questions
subjectives,
éthiques, esthétiques, philosophiques ou disons, métaphysiques.
Oui, on disait en début d'entrevue que c'est quelqu'un qui était plutôt romantique,
oui,
mystique.
Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, l'anecdote raconte que qu'il rencontrait ces fameux intellectuels du cercle de Vienne, donc il y a un cercle de penseurs très analytique, très logique, ben, il s'amusait en fait, lui, à leur lire des poèmes, tu sais. Entre autres, ben, pour les déstabiliser sans doute, puis ça, peut-être pour enlever du côté très sérieux là, de leur manière d'aborder la pensée, parce que, enfin, son désir, est, depuis ses premiers ouvrages, mais même par la suite, ça a été toujours finalement de vraiment circonscrire le petit cercle, parce qu'il est petit, des choses pouvant être traitées de manière formelle et logique. Oui, c'est possible, mais il y a très peu de thèmes dans la vie humaine qui peuvent se prêter à ça, puis il faut surtout pas avoir la prétention et l'orgueil d'utiliser cet outil-là analytique pour l'appliquer à des thèmes qui sont impossibles à traiter avec lui, finalement. Mm-hmm. Puis dans la suite de sa vie, disons, on peut... la rupture entre le premier et le second, comme dans le cas de tous les philosophes, là, est toujours discutable, mais on peut considérer qu'en quelque sorte, par la suite, dans la deuxième partie de sa philosophie, il va faire que radicaliser cette position-là pour faire en sorte que même son outil de pensée lui-même devienne encore plus malléable, plus flexible. Parce que c'est ce qui arrive finalement, au lieu de chercher une forme logique dure et comme immuable qui permettrait d'expliquer toutes les propositions, il met au point ce fameux concept qu'on connaît bien là, de jeu de langage.
L'aphorisme.
Non, ça c'est autre chose.
Ah, okay.
C'est vraiment le concept du jeu de langage qui vise à... Puis ça, déjà, c'est cette manière de concevoir comme un jeu, ça montre toute la souplesse, finalement, qu'il veut donner à son outil d'analyse lui-même. Donc,
ce qui amène aussi à sa théorie des grandes familles de concepts, finalement.
Oui, des ressemblances de familles, exactement. Donc, en gros, il y a un exemple qui est assez intéressant à utiliser, que lui-même reprend souvent, qui est celui du jeu d'échecs, pour un peu exemplifier sa conception du langage. Pour lui, il n'y a pas à chercher cette espèce de signification occulte et mystique du sens qui serait caché derrière. C'est un peu comme les pièces d'échecs, par exemple. Une pièce d'échecs, c'est pas simplement une figurine de bois. Chaque pièce a un sens particulier, comme chaque mot d'une langue a un sens particulier, puis c'est pas simplement un symbole vide de sens. Mm-hmm. Pourtant, ça représente rien. La pièce d'échecs va pas représenter une espèce, quelque chose qui serait dans un ailleurs accessible par la pensée ou quoi que ce soit. C'est le cadre du jeu lui-même qui détermine chacune des fonctions et des significations de chacune des pièces et qui détermine l'espace de possibilité de chacune. Donc, il y a des règles. Elles sont contraignantes tout en étant arbitraires. Et chaque pièce se détermine l'une l'autre dans ses possibilités. Et pour lui, il faut concevoir la langue comme ça et le sens d'un mot de la même manière et fonction de sa place et de son usage dans une langue et dans une grammaire, et non pas fonction d'un représenté représentant, enfin une espèce de miroir métaphysique là, qui permettrait d'aller chercher ailleurs un sens qu'on ne trouve pas ici. Donc tout est là, mais c'est dans la structure et la grammaire, c'est elle qui donne le sens. Donc il y a vraiment un passage de l'ontologie à la grammaire, carrément. Mmh.
C'est quand même curieux que Wittgenstein soit si connu pour son Tractatus et si peu pour cette deuxième théorie sur la grammaire.
Oui, mais ça dépend où, ça dépend dans quelle... Disons, en philosophie moderne, ce concept de jeu de langage a été très, très porteur, très repris. Ça a influencé énormément... Enfin, ça continue encore aujourd'hui d'influencer énormément la philosophie du langage.
Oui, c'est très... C'est une notion fondamentale, je pense, pour Searle, entre autres.
Entre autres. Toute cette approche très pragmatique également du langage, on peut en trouver les fondements dans les travaux, dans ces travaux de Wittgenstein qui peuvent être considérés comme vraiment un premier porteur et novateur. Après, auprès du grand public, le Tractatus demeure
le plus connu,
entre autres parce que c'est une œuvre vraiment... c'est une de ses seules œuvres qui a vraiment été conçue comme une œuvre à être publiée pour le public, etc. Le reste étant beaucoup plus fragmentaire, encore plus aphoristique que celle-là. Je crois que ça aide pas peut-être à l'accessibilité.
Ouais.
Puis il y a l'aspect mystique aussi de la fin du Tractatus, les 20 dernières propositions, les 20 derniers aphorismes, qui ont quelque chose de très... comme le mystique en général, quoi. Quelque chose de, il y a une aura autour de tout ça, c'est très attirant et tout. Donc, je pense que ça contribue également à attirer un certain lectorat.
Merci beaucoup, Roxane. C'est très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Le deuxième Wittgenstein, je ne connaissais pas du tout. Alors, si vous voulez bien, on va prendre une petite pause. On va écouter une pièce musicale. On va écouter, dans un instant, Jacksonville de Sofjan
Stevens.
Voilà, et on revient avec Pierre-Alexandre.
Right, then look where you're at.
Jacksonville de Sufjan Stevens. C'était très beau. Merci de nous avoir fait découvrir ça, Pierre-Alexandre.
Ben, de rien, de rien.
Donc, on va parler des transformations silencieuses de François Julien. Sur Wikipédia, on dit que l'œuvre de François Julien trouve son point de départ dans l'écart qu'il fait travailler entre les pensées de l'Europe et de la Chine, ainsi que dans le dialogue philosophique qui en découle.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est intéressant, en fait. Ça résume bien sa position en général.
Et comment M. Julien en est venu à s'intéresser à la pensée orientale de cette façon-là? C'est qui, M. Julien?
Ben, François Julien, d'abord, c'est un sinologue. Il enseigne à l'Université Paris-Diderot. Il est aussi directeur de l'Institut des études chinoises, des études orientales, pardon, à Paris. Et lui, en fait, quand je regarde son parcours universitaire, je pense que de aussi longtemps où on peut remonter, je vois qu'il a toujours travaillé sur des sujets qui touchent la Chine. Il a fait des traductions de certains ouvrages là-dessus, etc. Ça a toujours été un peu une approche philologique, mais orientale, c'est-à-dire des traductions là, de grands classiques chinois.
C'était quoi sa formation, lui? Est-ce que tu sais si c'est un philosophe ou...
Ben, c'est quelqu'un qui est assez multidisciplinaire. Je dirais que c'est... On peut pas vraiment le caractériser dans un genre plutôt qu'un autre parce que, bon, son approche touche autant la philosophie que l'anthropologie, que la philologie parce que, justement, bon, ça passe par la traduction de textes anciens orientaux et puis il y a une grande dimension linguistique aussi dans son approche qui lui donne une perspective, là, une certaine vision de la pensée occidentale à partir de l'extérieur, si on veut, une vision du dehors. Là. C'est ça qui fait tout son intérêt.
Son originalité.
Oui, exactement.
Et je sais qu'il a écrit beaucoup de choses quand j'ai vu sur Wikipédia qu'il avait écrit déjà plusieurs livres. Dans les transformations silencieuses, précisément, qu'est-ce qu'il nous propose?
Ben, je pense que les transformations silencieuses, d'abord, c'est vraiment une synthèse, finalement, de son parcours philosophique. Je pense qu'à la base, l'idée centrale, c'est de proposer, si on veut, un passage de l'ontologique, qui est la pensée occidentale, c'est-à-dire la pensée de l'être, vers le taoïque, qui est une pensée qui met l'accent sur le flou, le mouvement, la transformation perpétuelle. Si on veut, c'est qu'on a d'un côté toute la pensée européenne qui débute avec ce qu'on peut appeler le miracle grec, Aristote, oui. Platon, Socrate, tout ça, qui concrétise finalement l'être, c'est-à-dire ce qui est un, ce qui est immuable, ce qui est le concept finalement d'une chose qui renverrait supposément un phénomène réel, mais ce qu'on verra ce qui n'est pas toujours le cas finalement. Donc, on pourrait prendre par exemple le jour, la nuit. François Julien, dans son ouvrage Les transformations silencieuses, va poser des questions aussi simples, aussi enfantines que par exemple, où commence le jour, où commence la nuit? Et là, on voit que pourtant, autant d'une part, il y a deux concepts qui sont le jour et la nuit, qui sont finalement des êtres, au sens de la pensée occidentale. Mais pourtant, si on se met à chercher un commencement à ces phénomènes-là, on voit qu'on va toujours glisser dans une gradualité.
Ouais.
Alors, autant que d'un côté, il y a le jour et la nuit, dans la réalité des faits, il n'y a pas vraiment de frontière entre ces deux choses-là. Donc, on se retrouve prisonnier avec deux concepts qui nomment des choses, des présences, finalement, des phénomènes, mais qui sont pas, qui n'ont pas de démarcation dans la réalité. Donc, ça, je pense, c'est un des premiers intérêts. Je pense que c'est une porte d'entrée, finalement, vers sa pensée, c'est-à-dire qu'il met en doute l'être.
OK.
Si on veut. Je ne sais pas si c'est clair.
Oui, je trouve ça assez gros, en fait.
Mais est-ce que ce n'est pas une mise en doute qui part d'une mésinterprétation de l'ontologie occidentale, dans la mesure où, je me fais un peu l'avocat du diable, mais un grec, s'il était là, dirait, nous, on n'a jamais nié que le jour et la nuit soient perpétuelles transformations. Au contraire, c'est ce que dirait Platon, par exemple. C'est parce que le jour et la nuit, c'est-à-dire c'est parce que dans le monde empirique qui nous entoure, on est en perpétuel changement, que le philosophe pose l'hypothèse d'un être qui, par définition, est hors du monde, donc est hors du monde sensible, mais dans le monde qu'il va appeler, que les philosophes vont appeler ontologique, monde intelligible, monde de la pensée, c'est-à-dire précisément pas dans le monde qui nous entoure, qui, lui, est reconnu par les philosophes comme étant, oui, un monde de changement perpétuel. Il n'y a aucun philosophe qui a jamais prétendu que cet être dont il était à la recherche pouvait être trouvé dans le monde qui nous entoure. Le philosophe reconnaît d'emblée que le monde qui nous entoure est un monde de perpétuel changement, et c'est précisément la raison pour laquelle, on ne peut pas être d'accord avec sa quête d'un idéal 1, mais cet idéal 1, il ne va absolument pas le situer dans le monde empirique.
Je pense que c'est certain que déjà là, le terme de philosophie grecque est extrêmement flou. Je pense qu'il y a des penseurs comme, par exemple, Héraclite, qui étaient beaucoup plus près de la vision que François Julien apporte, de la vision, c'est-à-dire orientale. C'est certain que dès qu'on emboîte le pas avec des penseurs comme, par exemple, Aristote, il y a cette volonté de vraiment systématiser, de logifier la réalité, qui fait que, par exemple, l'être se cristallise vraiment dans quelque chose qui... l'extrait, en fait, le sort de toute possibilité de transition. Il n'y a pas de transformation dans l'être, il y a passage d'un être vers un autre, puis l'entre-deux demeure toujours une zone grise de la pensée, finalement. Il y a un être, c'est un peu, ça revient un peu au paradoxe de Zénon, finalement, du mouvement de la fameuse tortue qui fait de la grenouille, ou qui
la
fait... qui fait toujours, finalement, la moitié du bon, toujours la moitié. Est-ce qu'elle va finir par arriver à destination? Finalement, c'est cette fraction-là de la distance qui reste, finalement, impensable.
Mais de l'exercice que fait Julien, dans le fond, c'est définir et différencier les deux approches en les comparant?
Oui, ben, si on veut, d'une part, c'est pas nécessairement tant de les comparer, c'est de mettre le doigt sur le fait que justement cette approche-là occidentale de l'être, elle structure notre langage, elle structure notre pensée par le langage, en fait. On pose toujours des questions, notre manière de poser les questions sera toujours une manière ontologique, c'est-à-dire on va demander qu'est-ce que c'est, ou bon, c'est toujours ça renvoie toujours à l'être d'une chose, finalement.
Oui.
Mais en fait, ce qui est intéressant...
Puis le langage oriental n'est pas construit de cette manière-là.
Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous amène justement à... Il nous fait une ébrosse, un tableau du langage de la langue chinoise. Et puis, dans la langue chinoise, il n'y a pas d'être. Il y a seulement des transitions. Les choses sont en perpétuel mouvement. Ouais. Et puis... il n'y a pas, justement, c'est ça, c'est une des choses que je trouve qui est plus marquante, c'est que dans la pensée chinoise, il n'y a pas de grands récits de l'origine, de grands récits comme le texte de la Genèse dans l'Ancien Testament qui est un des éléments fondateurs de notre tradition.
On retrouve ça même dans les civilisations incas. Hein?
Oui, exactement. Et puis, tout autant que le récit de l'Apocalypse qui traite d'une fin qui est nécessairement... le pendant négatif de l'origine, du commencement, finalement. Mais dans cette pensée chinoise-là, il n'y a pas de genèse, il n'y a pas de récit des origines, parce que l'être, il n'y en a pas. La notion d'être est donnée d'avance, déjà en mouvement, donc il n'y a pas de nécessité d'une émergence ou d'une rupture.
On se contente du flou. Ben, c'est-à-dire on accepte d'être dans le flux.
Dans le flux, ouais, justement. Le flux plutôt que le flux. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, justement, François Julien se fait critique d'une notion qui est centrale à la pensée occidentale, c'est la notion d'événement, qu'on pourrait écrire événement avec un E majuscule, finalement, qui est... bon, si on se reporte dans l'histoire... Par exemple, l'événement le plus emblématique dans l'histoire occidentale, ce serait probablement dans notre histoire occidentale, ce serait probablement la venue du Christ sur Terre, par exemple, qui en tant qu'événement historique.
On a reparti le chrono à zéro.
Oui, exactement. Donc c'est une rupture notable dans l'histoire, parce que c'est pas une causalité qui s'enchaîne dans tout ce qui est déjà en cours. C'est vraiment une intervention de l'extérieur. C'est un commencement avec un C majuscule.
Oui,
si on veut.
Complètement. Ouais.
Et puis il va prendre cet exemple-là et puis il l'applique, par exemple, aux événements du 11 septembre.
Ah oui?
Oui, justement, parce qu'il va dire, bon, par exemple, les événements du 11 septembre, ont marqué l'imaginaire collectif, au sens où, bon, les historiens disent que le 21e siècle a commencé...
Oui, oui, ça, j'ai entendu ça.
On va bientôt changer de calendrier, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Ben, il y a tout un débat historiographique, en fait, entre les historiens. Certains disent que le 21e siècle a commencé avec l'effondrement du mur de Berlin. D'autres disent que c'est avec...
C'est le 11 septembre.
C'est le 11 septembre, mais bon, tout ça pour dire que...
Il y a toujours l'espèce de mythologie de l'événement, comme tu disais,
avec l'événement qui fait rupture dans la trame temporelle. Donc, justement, François Julien, lui dit que ce que nous, on considère toujours un peu instinctivement comme un événement, c'est en fait seulement l'effleurement de maturation qui était en cours depuis peut-être des siècles. En fait, il n'y a pas de rupture, finalement, dans cet événement-là.
Il y a transformation,
exactement. C'est juste la manifestation, la pointe de l'iceberg, finalement.
Puis c'est ça, la pensée
taoïque,
oui, voilà.
Ouais, exactement. C'est l'abolition, finalement, de la rupture. Puis toute sa démarche, finalement, vise à questionner la pensée occidentale à partir de cette pensée taoïque-là. Et puis, il va poser des questions du genre, par exemple, il y a un chapitre de son ouvrage qui s'intitule « Quand commencent les modifications? » point d'interrogation. Et puis là, il va prendre l'exemple dont j'ai parlé au début, celui du jour ou de la nuit. Bon, quand commence la nuit, quand débute le jour? Et puis là, on se retrouve un peu pris avec ces concepts-là qui sont vraiment enfantins, qui sont innés pour nous, dont on fait usage à chaque jour. Et puis, on se retrouve en face des concepts qui finalement sont extrêmement flous. Et puis il demande quand vieillir a-t-il commencé?
Depuis le tout début.
Oui, exactement. Là, il donne l'exemple de photographie. T'sais. On n'a pas cette conscience-là de vieillir parce que c'est non seulement notre corps qui vieillit tellement graduellement, tellement sans arrêt, mais non seulement notre corps, mais tout notre être. Donc, en se regardant dans le miroir, on n'a pas la perception du changement parce que c'est pas juste notre corps, c'est tout ce qu'on est qui vieillit. Mais le recours à une photographie, par exemple, qui date d'il y a 10 ans, 5 ans, ou même des fois un an, va nous projeter au visage cette réalité-là du vieillissement. Parce que cette photographie-là, elle se rapproche de ce qui, dans la pensée occidentale, est un être. C'est-à-dire un moment ou une chose qui est fixée dans un temps, qui défie finalement le mouvement, la continuité. Et puis François Julien dit « vieillir », c'est une phrase que je trouve très belle, il dit « vieillir a toujours déjà commencé ». Parce que même dans le ventre de la mère, l'embryon a déjà des cellules qui commencent à mourir, qui sont remplacées par des cellules neuves. Donc ce vieillissement-là est un processus qui... En fait, même le mot vieillissement serait pas un mot adéquat. Donc ça met... C'est vraiment
Parce que c'est du changement.
C'est du changement, finalement. C'est vraiment une approche qui met en question toute notre façon de voir les choses, toute notre façon de penser et donc, par extension, de parler.
J'ai un extrait ici que j'ai trouvé. Je vous le lis. C'est la langue qui structure notre réflexion. Or, les langues européennes nous maintiennent dans une appréhension faussée de ce qui nous entoure, car leur syntaxe disjoint, définit et classe en genre, nombre, verbe et conjugaison. Leur logique analytique nous mène à penser par catégories séparées. Or, c'est l'inverse dans la nature. Tous les éléments communiquent et s'influencent selon un incessant mouvement de mutation. La langue chinoise, elle, ne conjugue ni ne sépare. Chaque idéogramme associe des signes dont le potentiel signifiant varie selon leur rapport. L'idéogramme même reste susceptible de diverses significations selon le contexte général du propos. L'opposition des deux systèmes linguistiques reflète celle des deux conceptions du monde.
Oui, exactement. Je pense
que
c'est certainement un des passages les plus... un des passages centrales, en fait, qui exprime bien l'idée, finalement, de cet ouvrage, Les transformations silencieuses. Et justement, quand on pense à... par exemple, en biologie, on va parler d'écosystème. Et on va concevoir les écosystèmes comme autant d'ensembles séparés par des frontières qui sont autosuffisants ou qui contiennent un certain type d'animaux, de végétaux. Mais alors que lorsqu'on se place dans une optique de continuité, qu'est-ce qu'un écosystème? Où se termine un écosystème? Il ne peut pas y avoir de frontières, finalement. Il peut n'y avoir qu'un seul écosystème, finalement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, c'est ça. Je pense que ça résume bien l'idée générale.
Et est-ce que François-Julien tient quand même compte du fait qu'à l'intérieur même, Wittgenstein, dont on a parlé tout à l'heure, est un bon exemple de ça, à l'intérieur même de la philosophie occidentale, malgré peut-être son système langagier qui la prédestine en quelque sorte à penser de manière catégorisée, ce pas vers l'autocritique et vers la critique de cette manière ontologisante, disons, d'aborder la réalité a déjà été fait quand même de l'intérieur sans qu'il soit nécessaire de référer, enfin, de prendre appui sur le regard oriental, mais parce que, par exemple, cette critique-là qu'il adresse on pourrait juger que c'est qu'elle est très semblable à celle que Wittgenstein s'adresse à lui-même, et cette manière-là qu'il a de, on parle tout à l'heure des ressemblances de famille, tout ça, de voir plutôt le système dans sa globalité, et puis de refuser cette manière de catégoriser de la science occidentale. On a déjà des antécédents dans la culture philosophique elle-même.
Ouais, absolument.
D'ailleurs, Wittgenstein lui-même prend appui pour ce schéma-là sur la manière de concevoir la science de Goethe, qui avait une manière très différente finalement de la science moderne. Donc on pourrait quand même dire, je ne sais pas si François Julien lui-même en tient compte, mais qu'il y a bien sûr les courants principaux majoritaires, mais il y aurait aussi à prendre compte du fait qu'il y a des courants minoritaires dans l'histoire de la philosophie occidentale qui ont également apporté ce genre de critique et ce genre de modèle, alternatif en quelque sorte à la pensée.
Non, c'est certain. Je pense que déjà, c'est certainement des reproches qu'on peut lui faire parce qu'il critique en bloc ce qu'il appelle la langue européenne ou la science européenne ou la pensée européenne, qui déjà là est un concept beaucoup trop général qui exclut tout un paquet d'exceptions. Mais je pense que la nécessité fait en sorte que si on veut aller droit au but et puis si on veut avoir une approche qui est directe, il faut nécessairement opérer certaines généralisations. Mais c'est certain que, puis en plus, on pourrait y faire dans un deuxième temps la remarque que lui-même s'inscrit dans le système, lui-même fait partie de la pensée occidentale, lui-même est un occidental, lui-même a intégré tous ces concepts, et c'est ce qui lui permet au final de les critiquer. Donc je pense que oui, comme Wittgenstein, lui-même arrive à une certaine critique des présupposés conceptuels qu'il a acquéris, mais à partir d'une approche différente, qui je dirais celle du taoïque finalement. Je sais pas si ça répond à la question.
Oui. J'imagine que ça donne une bonne occasion aussi de comprendre la culture chinoise, parce que c'est une culture qui n'est pas facile à appréhender par nous. Alors qu'à travers ce livre-là, qui fait comme une critique finalement de la pensée occidentale, mais à travers le taoïsme, ça nous donne peut-être une idée de la manière de penser de l'Orient.
Ouais, je me suis déjà posé la question, en fait, jusqu'à quel point ça pouvait être un bon indicateur anthropologique, si on veut, de la pensée chinoise. Mais j'ai l'impression que, les penseurs auxquels il fait référence, c'est des penseurs qui sont des penseurs de l'Antiquité chinoise. Donc, ce serait comme de dire que, lire Platon va nous permettre de comprendre
la culture actuelle. Là,
il y a certainement une part de il y a certainement une part de vérité dans ce qui est dit, mais je pense que d'autant plus que la société occidentale actuelle est de plus en plus déterminée par, influencée par les principes de l'Occident, et vice-versa. Je pense qu'il y a peut-être justement une intégration qui est en train de se faire.
La mondialisation n'est pas seulement économique, elle est culturelle.
Oui, exactement.
Puis est-ce que tu dirais qu'on apprend plus sur l'Occident que sur l'Orient en lisant son ouvrage?
Je pense que on apprend beaucoup sur l'Orient, c'est certain, sur tout leur système philosophique, finalement, de des penseurs de l'Antiquité chinoise. Mais peut-être que je dirais, oui, on apprend plus sur nous parce que c'est, si on veut, un regard qu'on jette sur nous-mêmes, mais de l'extérieur.
Ouais.
Donc, c'est vraiment...
ça demeure occidentalo-centré, en quelque
sorte. Non, très occidentalo, oui. Parce que l'objectif premier, je pense, de cet ouvrage-là, n'est pas d'aller visiter la culture chinoise dans ses détails. C'est vraiment de mettre un miroir en face, de nous mettre face à un miroir, finalement.
Face à nous-mêmes.
Un miroir déformant.
Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. C'était très intéressant.
De rien, de rien.
Merci beaucoup, Roxane.
Merci.
C'est comme ça que se termine donc notre émission. Je vais faire le tour des remerciements. Je remercie bien sûr tous nos invités, Christiane, Mélissa, Jean-Philippe, Roxane et Pierre-Alexandre. Je remercie David pour son accueil chaleureux à la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean. Et attendez un petit peu, il y a quelque chose de nouveau. Je vous rappelle les spectacles du mois. Il va y avoir Gab Paquette qui nous a interprété Chinoiserie tout à l'heure. Il va être en spectacle avec les Boys Band le samedi 7 avril à 20h. Patrick Simard en fera la première partie, 24h à l'avance, soit le vendredi 6 avril à 20h. Et je remercie bien sûr Anaël à la mise en onde. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Bic Nic, sans qui rien ne serait possible, car c'est lui qui nous héberge sur son site web. Radio Fiat Lux. Mais avant de vous dire bonjour et qu'on enchaîne avec la chanson thème, je vais vous dire qu'on va vous faire une lecture. David va vous lire après l'émission un texte de Dostoïevski, Le rêve d'un homme ridicule. Merci, au mois prochain.